Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
La mobilité intelligente, ce sont les nouvelles technologies au service de tous nos déplacements. Depuis le TomTom qui, en évitant de nous perdre, nous fait économiser de l'essence et des nerfs, jusqu'au cœur de nos villes connectées et décongestionnées. Le lien entre la mobilité intelligente et l'écologie est de plus en plus évident. Les 42e rencontres de la mobilité intelligente ont, comme chaque année, démontré le dynamisme du secteur, un des rares en France à créer de l'emploi avec une croissance à deux chiffres. Jean Bergougnou est lui-même à la tête d'un cabinet de conseil qu'il a créé. Il est secrétaire général de la Tech ITS, l'association de tout ce que la France compte de mobilité intelligente. Il revient sur l'évolution et les perspectives de cette mobilité intelligente.
La principale évolution vient de l'apparition du GPS qui a permis de se localiser et de localiser un véhicule, un piéton, un événement, donc il y a 15 ans, et des télécommunications du GSM, de la téléphonie mobile, qui permet en même temps qu'on se déplace de communiquer. Donc ça a donné lieu à toute une série d'applications technologiques, par exemple des bus qui permettent de savoir où ils étaient, de prédire le temps d'attente à la prochaine station, des applications sur mobile, téléphone mobile, smartphone, qui vous permettent de savoir, vous, quand est-ce que ce bus va arriver à l'endroit où vous êtes. Ça a été vraiment le grand basculement dans la mobilité intelligente, qui a permis aujourd'hui d'ouvrir la porte à des applications qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire qui vous permettent en temps réel, pendant votre déplacement, éventuellement d'optimiser votre déplacement, de changer d'itinéraire en fonction des événements, des bouchons, des incidents. On est loin d'avoir fini tout ce qui touche au niveau des services et des applications sur téléphone mobile ou sur Internet. La prochaine évolution, c'est la technologie à bord du véhicule, la capacité au véhicule de communiquer entre eux, de communiquer avec leur infrastructure, qui là va offrir d'autres possibilités à la fois d'accroissement des services aux usagers, c'est-à-dire que votre voiture un jour sera peut-être capable toute seule d'aller se garer dans le premier parking et de revenir après quand vous la sifflerez, entre guillemets. Donc ça, c'est un champ d'évolution. Un deuxième champ, ça sera d'optimiser les infrastructures existantes. C'est-à-dire déjà, vous parlez de covoiturage qui permet peut-être le matin d'éviter d'avoir une seule personne par voiture, mais il y a toujours le problème du chemin au retour. Qu'est-ce que je fais quand je veux revenir? Et là, il y a des services qui se développent autour de ça. Il y a la capacité aussi, par des véhicules qui vont, dans certaines circonstances, prendre la main sur le conducteur, d'optimiser les trafics sur les autoroutes ou dans les centres-villes, donc de limiter les heures de bouchons, de limiter les accidents. Et surtout, on est dans une phase assez intéressante où, au lieu de subir son déplacement et de se dire « je prends mon transport en commun, mon bus, ma voiture, et je ne sais pas combien de temps je vais passer bloqué dans d'éventuels problèmes », je vais rentrer dans une mobilité choisie où effectivement j'aurai un certain nombre de moyens d'optimiser mon déplacement, de le réorienter dans la journée en fonction de mes contraintes personnelles et de rendre ce temps de déplacement grâce à un certain nombre d'automatismes comme un temps de loisir ou un temps que je me réapproprie pour lire, pour travailler, pour faire autre chose.
Des villes comme Bordeaux, où se tiendra le congrès mondial de la mobilité intelligente en octobre prochain, mais aussi Nice, ont bien compris cette mobilité intelligente.
Alors pour les élus et les collectivités locales, il y a un double enjeu. Le premier enjeu, c'est bien de répondre aux besoins de déplacement et de confort de vie de leurs électeurs, enfin, et de leurs citoyens. Le deuxième enjeu, c'est l'attractivité économique, qui est peut-être pas été très bien mesurée jusqu'à présent, mais on sent que l'engorgement de certaines villes est cause de disparition d'emplois parce que des entreprises se délocalisent pour échapper à ces ennuis-là. Donc c'est un deuxième axe. Je connais pas beaucoup de villes en France qui n'aient pas investi sur un domaine particulier. Nice a beaucoup travaillé à une époque il y a tous les programmes de développement de tramway. À Nice, il y a eu donc un fort investissement en tramway et dans le NFC, c'est-à-dire le badge de déplacement sans contact, hébergé éventuellement sur un téléphone portable. Vous avez Strasbourg qui est très très évolué. Vous avez aussi Nantes, Lille, Paris, bien sûr. Toutes les villes ont chacune pris un peu le problème, peut-être par des approches différentes, mais conscientes des enjeux importants de mobilité pour le développement économique, pour la santé des citoyens en limitant les gaz à effet de serre et la pollution urbaine, et pour le développement économique de leur territoire.
Évidemment, qui dit mobilité intelligente dit aussi sobriété énergétique et réduction de la pollution. Et là, on songe déjà à la route positive dont les Pays-Bas ont mis au point un premier tronçon en forme de prototype.
On va commencer à avoir des matériaux qui permettent par exemple d'allumer les lampadaires, des choses comme ça. Il y a déjà des petites expériences qui permettent de récupérer de l'énergie sur simplement la pression des pneus ou la pression des pas des gens qui marchent sur les trottoirs. La route intelligente donnera de l'information au véhicule qui lui-même sera intelligent et qui pourra à l'utiliser.
Nos déplacements encore plus intelligents. LIFSTAR, c'est l'Institut français de recherche fondamentale sur les transports et les réseaux, travaille activement sur cette route positive. Quant à l'économie de la mobilité intelligente, elle représente un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros, des créations d'entreprises et des créations d'emplois.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.